Vous allez très heureuse, Nechama, on est à l'heure aujourd'hui. Bonjour et Boker Tov.
Boker Tov, Didier.
Comment ça va bien?
Dieu merci.
Ah, je peux même pas gagner, hein. Merci tout court, c'est bien aussi.
Ça veut dire beaucoup si je dis Dieu merci ce matin. Bah, vous savez pourquoi, Didier?
Dites-moi tout.
La police m'a réveillée à 4h du matin.
Tant pis pour elle.
Vous vous en rendez compte? On m'a cassé la vitre de ma voiture.
Non.
Oui, vraiment, parce que j'avais des trucs dans mon coffre. C'est ce que je vous jure que c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, attendez, est-ce qu'il faut que je mette une mezouza dans ma voiture maintenant? Bah peut-être en fait. Hein. Il y en a qui en mettent. Je sais que c'est pas selon le DIN, quoi, selon la loi, mais bon. Bah, voilà.
En même temps, les voitures n'existaient pas au moment où les lois ont été faites, non plus. Hein.
Oui. C'est pas plus mal. En tout cas, on m'a cassé la vitre et en fait, c'est tout, c'est pas grave. Quoi, je passerai chez Carglass tout à l'heure. Donc en fait, oui, Baruch Hashem, Dieu merci, tout va bien.
Eh ben, c'est tout ce qui compte.
On est safe et voilà.
Tant qu'à casser les vitres, c'est mieux en été quand on ne souffre pas du froid.
Oui, c'est ce qu'elle m'a dit ma fille ce matin. Maman, tu vas avoir froid dans la voiture. Bon, en fait, pas du tout. Il y a du chauffage dans la voiture, donc tout va bien.
Bien. Alors, pour en revenir au sujet qu'on traite d'habitude, de quoi allez-vous nous entretenir ce matin?
Alors, la semaine dernière, vous m'avez dit, Nechama, est-ce qu'on va parler de Pessah la semaine prochaine? Et je me suis dit, bon, je vais quand même regarder notre calendrier. Alors, Pessah tombe le 22 avril au soir. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, Didier, vous savez, parce que les gens regardent dans le calendrier, ils voient Pessah le 23. Donc ils me disent, mais attends, Pessah, si c'est le 23 avril, quand est-ce qu'on fait le céder? Le jour d'avant, le jour d'après, etc. Donc voilà, donc je veux juste m'assurer qu'on est tous sur la même ligne. Le céder de Pessah commence le lundi 22 avril. On allume les bougies à 20h32 pour être exact. Pessah dure 8 jours, donc il commence le lundi soir et il termine le mardi 30 avril. Bon, ça c'est si quelqu'un a envie de le poser sur son calendrier. Numéro 1. Donc ça veut dire qu'il nous reste 3 semaines avant Pessah.
À la différence que en diaspora, il y a 2 sédarim.
Oui, alors absolument. Donc nous en diaspora, donc en Belgique, nous allons célébrer le premier céder le lundi soir 22 avril, le deuxième céder le mardi soir 23 avril.
J'ai une question.
Et on va une seconde et on
oui,
va
oui,
terminer Pessah donc le 30. Or, les Israéliens ne vont faire qu'un seul céder. Donc les Israéliens en Israël et à l'extérieur d'Israël, hein, quand ils vivent à l'extérieur d'Israël mais qui se sentent encore israéliens, ils ne font qu'un jour de fête.
D'accord.
Ils font comme s'ils étaient en Israël. Et donc, eux feront un seul céder le 22, au moment de notre premier céder. Mais par contre, eux terminent la fête un jour plus tôt. Donc, ils termineront la fête le 29 avril.
Ah, ils ne peuvent jamais faire comme tout le monde.
C'est un clin d'œil, bien sûr. Qui le dites.
Alors, deux questions
Dites-moi.
En une, si vous voulez. Pourquoi deux sédarim en diaspora? Première question, j'ai mon idée sur la réponse, mais enfin bref, je vous laisserai la donner. Et deuxièmement, les deux cédères sont-ils totalement identiques?
Alors, je vais commencer par la deuxième question qui est la plus simple. Oui, les deux sédarim sont exactement identiques. Ils sont reproduits vraiment à l'identique. Vous savez que le séder de Pessah a été designé de la manière dont on le fait aujourd'hui après la destruction du deuxième temple. Donc, en fait, si vous voulez, à l'époque, quand vous lisez dans le texte biblique, Pessah, ça se faisait à travers le don du sacrifice de ce qu'on appelle l'agneau pascal. D'accord? Donc, on faisait des sacrifices à l'époque et donc on offrait l'agneau pascal, on mangeait du maror et de la matzah. Et on racontait l'histoire d'Égypte, effectivement. Mais le seder tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec les 15 étapes, avec le kiddush, avec tremper les herbes amères de cette manière-là, lire la Haggada de cette manière-là, le seder dans lequel on a tous, en fait, le même magid. Magid, c'est ce moment dans lequel on raconte la Haggada, on la raconte tous de la même manière. Ça, c'est quelque chose qui a été posé avec nos sages plus tard, justement, notamment quand on ne pouvait plus donner de sacrifice d'agneau pascal, puisque les sacrifices ont été interdits après la destruction du second temple, donc on ne donne plus de sacrifice. Et donc, on a dû un petit peu reformuler le seder de Pessah pour qu'il ait du sens sans passer par le sacrifice de l'agneau pascal. Et donc, c'est la manière dont on célèbre le seder. Et donc, ce seder est célébré deux fois pareil, le premier et le deuxième soir.
Okay.
Par rapport à votre première question qui est...
Pourquoi un seul céder en Israël
Pourquoi
et deux
un seul
en diaspora céder?
Alors, je vais aller au plus simple, mais on pourra aller plus compliqué la prochaine fois avec quelques recherches. Mais de tête, je vous dis juste que tout simplement, la différence entre la diaspora et Israël, à part Rosh Hashanah, si je me trompe pas. À part Rosh Hashanah, donc Rosh Hashanah, on célèbre tous deux jours de fête. Mais à part ça, tous les autres fêtes sont faites un jour de Yom Tov en Israël et deux jours de Yom Tov en diaspora. Donc en fait, comme deux jours de Yom Tov, c'est reproduire à l'idem le premier jour. Donc en fait, on va faire exactement 2 jours de Pessah, deux premiers seder de Pessah. Attention, ça aussi c'est une question qu'on me pose souvent, Didier. Est-ce que donc la fête de Pessah est sur 8 jours? Elle commence par 2 jours de Yom Tov, donc c'est-à-dire deux jours fériés, d'accord? Puis il y a 4 jours qu'on va appeler les 4 jours de Chol HaMoed, c'est-à-dire qu'on est encore fête, on est Pessah, on ne mange pas de chametz, on mange de la matzah, etc. Mais ce ne sont pas des jours fériés. Et puis, Pessah va terminer en diaspora avec encore une fois 2 jours de Yom Tov et en Israël avec 1 seul jour de Yom Tov. Et là, ces 2 derniers jours de Yom Tov, on ne recommence pas le Seder encore une fois. C'est juste 2 jours de Yom Tov, c'est-à-dire que c'est un repas de fête. Enfin, c'est 2 jours dans lesquels on mange des repas de fête. On va faire le kiddush comme Shabbat. On va faire le motzi, sauf que le motzi, au lieu de le faire sur de la challah, on la fera sur de la matzah, bien entendu, d'accord? Et donc ça, cette année, ça va tomber, si Dieu veut, le dimanche soir 28 avril et le lundi, lundi midi, lundi soir et encore une fois, mardi midi. Et on terminera la fête mardi soir à 22h. On ne pourra pas consommer de chametz jusque ce fameux mardi soir 30 avril à 22h. D'accord. En Belgique.
Moi, je m'étais laissé dire à l'époque, on m'avait expliqué la différence entre pourquoi 1 et 2 Sédarim en diaspora, parce que Pessah étant la fête de la libération de l'esclavage et du retour en Canaan, la terre promise, eh bien, il fallait qu'en diaspora, on garde et qu'on ait un souvenir plus intense et encore plus fort et de nous faire des piqûres de rappel supplémentaires pour nous dire que le but du peuple juif, c'est de retourner en Canaan. Et donc, la raison pour laquelle en diaspora, il y avait 2 Sédarim, c'était justement pour mettre plus fort cette envie et ce besoin de retourner en terre promise.
Alors effectivement, c'est une réponse très intéressante, Didier, et je pense qu'elle a tout son sens. Il faut quand même reposer une chronologie, ça c'est important, c'est ce que je fais souvent avec vous le matin. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler en fait la tribu de Jacob, d'accord, puisque c'est les enfants de Jacob qui descendent en Égypte, hein. Ils vivaient eux à Canaan, ils descendent en Égypte, ils deviennent esclaves en Égypte, ils ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants, etc. Ils deviennent vraiment voilà, très 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 nombreux. Le pharaon a peur. Ils se disent, eux, c'est des ennemis de l'intérieur, puisque à la différence du peuple égyptien, les Hébreux, eux, ont gardé leur langue, leurs vêtements et leurs prénoms. Et donc c'est très intéressant puisque déjà dans la bouche du pharaon, on va entendre les paroles qui beaucoup plus tard, dans notre chronique de la semaine dernière, on en a parlé, qui seront les mêmes paroles que Haman. C'est-à-dire que Haman dit à Achashverosh, au roi, il lui dit « Yeshno am echad mefurad ou mefuzar ben ha'amim ». Il y a un peuple qui est dispersé mais qui reste différent parmi les nations. Et donc c'est exactement ce que pharaon va analyser quand il va voir le peuple juif, qui s'appelle pas le peuple juif mais la tribu de Jacob. Et il se dit, tiens, c'est bizarre, ces gens-là, ça fait déjà plus de des centaines d'années qu'ils vivent parmi nous en Égypte. Or, ils ne sont pas complètement égyptiens, même si on est sûr qu'il y a eu une culturation qui a été faite. On dit qu'il y avait beaucoup quand même d'hébreux qui étaient idolâtres, etc. Hein, donc, faut quand même regarder les choses réellement. Mais ils se différenciaient quand même du reste de la population à travers notamment leurs vêtements ou leur langue et leur prénom. Donc ça, le pharaon, il va avoir très peur et il va décider de rendre en esclavage ce peuple-là. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. D'abord, il les séduit, il leur dit « venez travailler pour moi, c'est intéressant ». Puis après, il augmente leur charge de travail, il diminue leur salaire, etc., etc., jusqu'à ce qu'ils deviennent esclaves. By the way, quand on a en tête une idée de l'esclavage en Égypte, on a tous en tête ces images d'esclaves qui travaillent dur pour justement à la construction justement des pyramides par exemple, mais on a un petit doute dessus, ça veut dire on se dit est-ce que c'était vraiment ce qu'ils faisaient? Oui, notamment, mais pas tout le monde. Être esclave de son travail, Didier, vous et moi, on sait très bien ce que ça veut dire, d'accord? Ça veut dire que c'est un risque justement, et donc les Hébreux sont tombés dans ce risque-là et ils sont devenus esclaves pour le pharaon pendant très longtemps et ils en souffrent énormément. Moïse a la parole de Dieu qui lui dit retourne en Égypte et va libérer ce peuple, vraiment. Et donc Moïse retourne, il négocie avec le pharaon qui ne veut pas négocier, il y a les 10 plaies qui tombent, et puis finalement Moïse réussit à sortir le peuple d'Égypte. Alors pourquoi est-ce que je reviens sur cette chrono qui est importante, Didier, c'est que vous me reliez ça à l'entrée à Canaan. Il faut faire attention quand même, c'est vrai à 200% que l'argumentation de Moïse est de dire ce peuple, les Hébreux, doivent sortir d'Égypte pour pouvoir servir leur Dieu à l'extérieur d'Égypte, et notamment pour l'entrée en Canaan, mais donc qui va s'appeler Israël, mais ça se fait absolument pas de manière si rapide. C'est-à-dire que l'entrée en Israël n'est pas directement liée à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, les Hébreux, donc je continue à les appeler les Hébreux puisqu'ils ne sont pas encore le peuple juif. Ils sortent d'Égypte.
Ils sont déjà le peuple juif, mais ils ne s'appellent pas Israël.
Alors, une seconde, c'est intéressant. Donc, en fait, Jacob, beaucoup plus, il y a 300 ans en arrière, l'ange lui change son nom. Donc, il change son nom de Jacob, Yaakov, à Israël. Donc, en fait, ils sont déjà les Béné Israël, les fils d'Israël, puisque Jacob a changé de prénom, mais ils ne sont pas encore une nation. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont devenir une nation? Ben justement, le déclencheur de la nation, de la fabrication de la nation, on va dire, c'est justement cette libération, cette capacité à sortir d'Égypte et à se libérer de l'esclavage. Ils vont marcher pendant 49 jours dans le désert. Et qu'est-ce qui va se passer le 50e jour, Didier? Ils se rassemblent autour de la montagne de Sinaï et ils reçoivent la Torah. D'accord? Et en fait, Didier, ce qui est intéressant, c'est que le peuple juif devient le peuple juif en deux temps. D'abord à sa conception, ce qu'on appelle la conception, c'est vraiment ce moment où ils peuvent sortir d'Égypte. Il y a un moment de gestation, c'est justement ces 49 jours, et il y a un moment d'anniversaire, on va dire de la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif, c'est vraiment lorsqu'on va célébrer la fête de Shavuot, quand on va recevoir la Torah. Alors vous allez me dire, Nechama, vous m'avez toujours pas répondu avec l'entrée de Canaan. Quand est-ce qu'on rentre finalement en Canaan? Mais en fait, Didier, je vais vous surprendre, on va pas rentrer tout de suite en Canaan. C'est vrai que dans l'idée, c'était de rentrer tout de suite en Canaan. Or, il y a des péripéties dans le désert, et Dieu et le peuple et Moïse, en fait, ils comprennent tous qu'ils sont pas du tout prêts, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, de s'approprier une terre à ce moment-là, puisqu'ils ont encore une mentalité d'esclave. Ils ont très, très terriblement peur de rentrer dans une terre et d'avoir une autonomie et de conquérir une terre et de s'installer dans une terre, etc. Puisqu'ils vivent dans le désert, un peu nourri, logé, blanchi, hein, puisque Dieu leur envoie de la manne, ils ont de quoi boire, de quoi manger, ils étudient la Torah puisqu'ils reçoivent la Torah à Shavuot, et donc ils ne sont pas prêts. Et donc ils vont déambuler dans le désert de manière un peu nomadique pendant 40 années, et c'est seulement après ces 40 années qu'ils vont rentrer en Israël, non plus avec Moïse, puisque le pauvre Moïse, lui, va mourir vraiment aux portes d'Israël, ne va jamais pouvoir rentrer en Israël, mais avec son successeur qui s'appelle Yehoshua, Josué. Et Josué va aider le peuple à conquérir la terre d'Israël pendant 7 années. Et puis, ils vont encore partager la terre pendant encore 7 années. Et c'est seulement après ces 14 années qu'ils s'installent complètement dans la terre et qu'ils ont une autonomie complète, une indépendance, je dirais même, complète en Israël. Et que là, les Béné Israël vivent en Israël. Donc, il faudra encore attendre, ben, littéralement 54 années. Hein, donc, 40 années dans le désert, 7 années de conquête. Encore cette année de séparation des terres pour pouvoir vraiment s'installer complètement. Donc on voit que c'est un long processus. Et ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, Didier, c'est bien qu'il nous reste que 2 minutes. C'était justement du déclencheur. Le déclencheur, Didier, c'est justement ce qui va se passer dans la première parole que Dieu dit à Moïse par rapport au peuple. Dieu dit à Moïse, va chez le peuple et dis-leur à Chodesh Azelachem. Il va falloir que tu comptes à partir d'aujourd'hui les mois du calendrier. Et donc, à partir de ce mois-ci, ce sera ton premier mois. Quel est ce premier mois, Didier? C'est le mois de Nissan, le mois dans lequel, justement, Pessah tombe. Et donc, la grosse question que les sages se posent encore aujourd'hui, ils disent, mais attendez une seconde, si dans la Torah, le premier mois, c'est le mois de Nissan, pourquoi est-ce qu'on célèbre Rosh Hashanah?
Ah, en Tishri, mais on l'avait déjà évoqué lors des fêtes de Tishri, justement.
Alors, on dit que, à la différence, Didier, ben, le peuple juif, pour pouvoir faire simple, il fait toujours compliqué. Et donc, au lieu d'avoir un nouvel an, il en a deux. Il y a ce qu'on appelle, à Rosh Hashanah, le nouvel an des hommes, c'est-à-dire le moment dans lequel Dieu a créé le monde. Et puis, il y a, au mois de Nissan, le nouvel an du peuple juif, l'anniversaire du peuple
juif. Sans oublier, Tou Bishvat, le nouvel an des arbres.
Exactement. Alors, c'est très intéressant, Didier, que vous dites ça, puisqu'on a été contacté par le Bureau des Affaires Externes de l'Union Européenne. Ça s'appelle IAS. Et donc, ils vont installer dans leur mur une exposition sur le concept du renouveau. Ils ont demandé à toutes leurs délégations dans le monde entier de leur envoyer des photos sur des cérémonies culturelles sur le renouveau, mais ils n'ont rien reçu de la délégation en Israël. Et donc, ils nous ont contactés en nous disant, est-ce que vous auriez du matériel qu'on pourrait exposer dans nos murs sur le renouveau dans le judaïsme? Et donc, de tête, Didier, à quoi vous pensez quand au renouveau? Bah, vous dites, il y a Rosh Hashanah, je veux mettre une photo, pomme et miel, etc. Et puis, c'était très marrant, puisque au téléphone, c'était quand même un brainstorming. Je leur ai dit, ah ben, il y a Rosh Hashanah. Ben, en fait, le renouveau, non. Il y a aussi Pessah, puisque c'est le renouveau du peuple juif. Ah, mais je leur dis, mais attendez, il y a aussi Tu Bishvat, le renouveau de l'arbre. Et puis je leur dis, attendez, il y a aussi le renouveau pour la femme, il y a le Mikvé. Et puis je me suis lancée dans une espèce de truc où je me suis dit, mais en fait, toutes les occasions
sont
toujours...
Vous les avez tous convertis, en fait.
Mais complètement, il y a toutes les occasions sont toujours une chance de pouvoir créer le renouveau. Et donc, Didier, on se lance justement dans ces 3 semaines de préparation jusqu'à Pessah. Et c'est ce que j'avais envie de dire à nos auditeurs aujourd'hui. N'hésitez pas à déclencher ce début de processus justement qui nous mène vers une libération. Et Dieu sait qu'on a besoin de libération, donc bon voyage.
Merci beaucoup, Nechama. Et ça y est, vous vous êtes mis déjà au début du nettoyage de Pessah, parce que la semaine dernière, vous étiez un peu procrastinatif.
Non, Didier, c'est un grand tabou. C'est un très grand tabou. Vous savez que moi, j'ai complètement démystifié l'idée du nettoyage. C'est-à-dire que je vends mon Hametz à Pessah. Vous comprenez ce que ça veut dire ?
Oui, que vous gagnez de l'argent.
Non, là, je dis que Dieu, je vends mon Hametz à Pessah. Donc, si j'ai du Hametz à la maison, Hachem, tu t'en occupes, moi. J'ai fait de mon mieux, mais je vais quand même pas devenir l'esclavage du ménage.
D'accord. Vous restez une femme malgré tout. Et ça, c'est très bien. Une féministe. Hein.
C'est très bien. Femme très libre, ça, c'est sûr.
Heureusement. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Nechama, d'avoir
été là.
Et puis, à la semaine prochaine.